le foot, et ben je vous propose de rester avec
tout
nous.
Tout le monde aime le foot.
Ça serait un bon sujet, le foot.
Le foot, c'est pas que le foot. Le foot, c'est la politique, c'est la société.
Justement, on va en parler parce que le foot, ce ne sont pas que des résultats sportifs, évidemment. C'est aussi la diplomatie du sport. Il y a aussi les footballeurs. Et puis, il y a la Coupe du Monde 2018 qui a démarré jeudi à Moscou sous l'œil attentif du président russe Vladimir Poutine. Un événement à la résonance planétaire dont le Kremlin espère bien faire une vitrine pour le pays.
La fièvre du football et l'impatience qui monte au bout des crampons jusque dans les couloirs du Kremlin. Une campagne de promotion bien orchestrée qui fait de Vladimir Poutine le dirigeant le plus cool du moment. Et si la Russie a déboursé plus de 13 milliards de dollars pour cette Coupe du Monde, c'est bien qu'elle a tout à y gagner et elle entend se montrer sous son meilleur jour.
La Coupe du Monde est aussi l'occasion de connaître la Russie, son identité, sa culture, son histoire unique, sa diversité naturelle et son peuple hospitalier, sincère et amical.
Toute l'étendue de la Russie va donc s'offrir aux centaines de milliers de fans venus de l'étranger qui seront déployés dans les 11 villes qui accueilleront les matchs. Ce mondial doit faire oublier les ratés des Jeux Olympiques d'hiver à Sochi. La Russie a mis les bouchées doubles pour que l'argent investi ne suscite pas autant de critiques qu'en 2014, mais fasse plutôt renaître le sentiment de fierté nationale. Un mondial réussi permettrait de contrebalancer les brouilles avec les Occidentaux après l'affaire d'ingérence dans la présidentielle américaine et l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal. Un scandale qui conduit au boycott diplomatique de la Grande-Bretagne, mais les autres dirigeants ont assuré qu'ils iraient en Russie suivant l'avancée de leur sélection. Une petite victoire déjà pour Vladimir Poutine qui appelait devant la FIFA à ne pas mélanger le sport et la politique.
Ne pas mélanger le sport et la politique, dit Vladimir Poutine. Premier commentaire là-dessus, Maria.
Il en fait un événement politique et il va en tirer le maximum, en fin de compte, de retentissement, de bénéfices en matière politique. C'est quand même un pays qui est sous sanction, ne l'oublions pas, même si cette Coupe du Monde, il l'a obtenue en 2010, donc bien avant les événements de... d'Ukraine, mais il s'est passé beaucoup de choses entre-temps et la Russie a quand même été plus ou moins isolée, mise à l'écart de la communauté internationale, sans doute à juste titre. Et donc Vladimir Poutine est tout charme de façon à reconquérir une audience et à créer comme un espèce d'élan, je dirais, sympathique, un élan de bonne humeur. On est dans la logique du sport.
Et ça marche d'ailleurs. Est-ce qu'un mondial peut changer l'image d'un pays ?
Oui, parce que non seulement il y a eu les Jeux Olympiques à Sochi, c'est pas le premier grand événement sportif qui se tient là-bas. Il y a eu les Jeux Olympiques de Sochi, il y a cette Coupe du Monde de football où, qu'on le veuille ou pas, tout le monde va. C'est le deuxième événement le plus regardé de la planète.
Mais est-ce que ça rend la Russie sympathique ? Vous disiez ça peut donner une image un peu plus sympathique. Est-ce que d'organiser un grand événement sportif, ça donne une meilleure image ? Maria, peut-être d'un mot, excusez-moi.
Pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'on déplace peut-être le regard de Vladimir Poutine et son incarnation de la Russie à l'échelle internationale pour regarder un petit peu plus le pays, ce qu'il a à offrir. Et donc, effectivement, ça peut générer une lecture un petit peu plus personnel, un petit peu plus sympathique, les capacités d'accueil, le contact que l'on pourra avoir avec la population. Et c'est vrai que Vladimir Poutine a fait beaucoup d'efforts en mettant certains hooligans sous clé. Il y a eu un énorme effort de construction d'infrastructures et c'est vrai que le pays fait en sorte effectivement d'accueillir dans les meilleures conditions tout un ensemble de supporters étrangers parce que c'est une question d'image internationale pour le pays.
Mais c'est pas cadeau quand même. C'est-à-dire qu'il y a un effet, il peut y avoir un effet déformant. D'abord parce que vous attirez le regard de la planète entière sur la Russie. D'un seul coup, on redécouvre les gens en prison, les opposants qui sont un peu brutalisés. Il y a des tas de journalistes qui passent, il y a des tas de gens qui se mettent à écrire. Donc il y a quand même un risque pour ces pays qu'on va appeler complexes de s'ouvrir à un événement comme ça parce que justement il est planétaire et parce que justement on va regarder ce pays. Et au-delà, parce qu'on n'est pas des naïfs quand même, au-delà de ce qu'on veut bien nous montrer, les matchs de foot, les trucs sympas, les babouchkas, tout ça, c'est sympa, mais on va au-delà et les gens vont au-delà. Donc pour Poutine, c'est quand même, on voit déjà même des critiques en interne, dans la société russe. Pourquoi on a fait 14 stades dans des endroits où il n'y a même pas un club de division 1 et pourquoi on n'a pas fait d'hôpitaux. Enfin, les mêmes débats qu'il y avait eu, je vous rappelle, au Brésil. Et on a vu ce qui s'est passé après la séquence Jeux Olympiques, Coupe du Monde au Brésil, quel a été le backlash social qui a emporté ce pays en quelques années. Donc c'est quand même un jeu extrêmement dangereux.
Jusqu'ici, ça se passe bien ?
Non, mais on parle de tout, on a fait 3 jours. Je veux dire, bon, on va pas non plus. Non, mais je veux dire, ça va durer 1 mois, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que le monde va rester tranquille ? Parce que la Coupe du Monde, c'est pas aussi une bulle, c'est pas une bulle à part. Il y a un monde en éruption en ce moment. Est-ce que ce monde-là va rester tranquille pendant 1 mois ?
On a quand même eu des images un petit peu surprenantes entre, je dirais, le prince héritier d'Arabie Saoudite, côte à côte avec Poutine et parlant de visant apparemment aimablement.
C'est une nouvelle réalité du Moyen-Orient aussi.
Voilà, et je pense qu'il va y avoir là aussi un accompagnement, une mise en image complaisamment relayée par Vladimir Poutine qui sera à la manœuvre du début à la fin pour qu'on aboutisse effectivement à ce genre de mise en scène où on voit une Russie normalisée. On a employé le terme vis-à-vis de la Corée du Nord, mais c'est vrai que la Russie est sous le coup de sanctions il n'y a pas encore si longtemps. Et regardez l'attitude du Royaume-Uni, l'attitude de la France qui hésite un peu à aller trop clairement.
Et on verra au final effectivement qui va, qui n'y va pas. Il y avait une autre information cette semaine sur au rayon
des équipes africaines et bon, que les cris de singes. Pour l'instant, on ne les a pas entendus.
En Russie, on espère qu'on effectivement. Les alors, on sait qu'il y a de grosses problématiques de racisme, d'oliganisme en Russie, et ça, on espère évidemment qu'ils pourront arriver à les contrôler. Donc, autre information au rayon de la diplomatie du sport et du football, l'attribution du Mondial 2026 à un triplé, États-Unis, Canada, Mexique, les pays de la LENA, ironiseront certains qui ont du mal à s'entendre, en ce moment. Il y a souvent quand même... l'attribution des compétitions soulève toujours un peu des soupçons, etc. Est-ce que là, il y a matière à s'interroger ?
Non, parce que la note était quand même supérieure à celle du Maroc. Il n'y a pas de surprise au final que ce soit les pays de la LENA qui l'aient emporté. Déjà, il faut clore le débat là-dessus. Le Maroc n'a eu que 2,5 sur 5. Ça fait à peine la moyenne et tout le monde plébiscitait déjà cette candidature de la LENA. Donc, il n'y a vraiment pas de surprise, il n'y a pas de risque de corruption, rien de tel.
Bon, le Maroc a quand même de quoi être un peu mécontent.
Ça, c'est la première étape du raisonnement. La deuxième étape, c'est que c'est la 5e fois que le Maroc se présente. Et il y a eu un événement quand même pour cette 5e fois, c'est que l'Algérie a soutenu la candidature du Maroc.
Donc, Maroc et Algérie qui ne sont pas en bon terme diplomatique du tout. Grands amis.
Donc, ce que je veux dire en relevant cela, c'est que si on a un exemple comme celui-là, du Mexique, du Canada et des États-Unis, qui arrivent dans le sens de leurs intérêts à accueillir une Coupe du Monde, pourquoi est-ce que le Maghreb, qui a aujourd'hui tout le mal du monde à assurer son intégration, ne peut pas utiliser un événement comme la Coupe du Monde?
Parce que donc le Maroc se retente le coup pour dans 4 ans, donc vous proposez par exemple une candidature maghrébine avec les 3 pays.
Quitte à ce que ce soit la candidature juste des mondialistes du Maghreb, c'est-à-dire ça pourrait être une candidature Tunisie, Maroc, Algérie, qui permettrait d'avoir un ticket intéressant, mais pourquoi ne pas associer tout le Maghreb pour que, à la fois en termes d'infrastructure et en termes d'intégration, on arrive à quelque chose d'intéressant?
Ouais, j'ai du mal à voir ce que je vais faire dans 3 jours, alors 2030... Pour moi, ça ressemble à de la politique.
Prévoir parfois.
Non, oui, mais on est un peu quand même... D'ailleurs, le truc amusant, c'est que cette candidature nord-américaine, elle a été décidée dans un autre monde, dans une autre vie, en 2009 ou en 2010, à l'époque de Barack Obama, à l'époque du reset. Enfin, je veux dire, dans un monde totalement différent, où les Canadiens, les Mexicains, les Américains étaient dans une même dynamique, et d'un seul coup, on se retrouve avec une Coupe du Monde qui va se tenir entre des gens qui se parlent à peine.
Il ne sera plus là en 2026.
Oui, mais peut-être que ce sera son successeur. Ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve avec un Donald Trump qui défend un événement que fondamentalement, il ne doit pas vraiment... Il a fait peur à tout le monde en disant « ceux qui ne voteront pas, on va régler nos comptes ». Bon, ça c'est un. Deux, c'est quand même intéressant la liste des gens qui n'ont pas voté pour le Maroc. Parce que...
Alors c'est ça, il y a 11 pays africains qui n'ont pas voté pour le Maroc.
L'Afrique australe... Oh, et après, il y a des vieilles histoires, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Polisario, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Moyen-Orient. Ça, c'est les amis du Maroc. L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, etc. C'est les amis du Maroc. Et l'Arabie Saoudite a mis tout son poids sur la candidature américaine parce qu'il y a un jeu de puissance qui est en train de se créer. En Arabie Saoudite, les Saoudiens ont probablement décidé d'être la puissance dominante de leur région. Il n'y a pas de raison que les Qataris aient une Coupe du Monde en 2018, 24, 20, 22.
22.
22. On va reprendre du poids. Et pour reprendre du poids, pour être les patrons, pour être les chefs, on va s'allier avec le grand patron. Et là, on voit que les choses bougent. Et les Marocains ont été estomaqués que leurs amis, parce que c'est vraiment des amis proches, même au niveau des dynasties régnantes. Donc on peut se demander s'il n'y a pas d'autres problèmes là. Donc ça vaut le coup quand même de jeter. Et puis il y a le cas particulier du Guinéen qui s'est trompé de bouton, il semble-t-il.
Il y a une polémique sur la Guinée qui dit avoir voté pour le Maroc, etc. Non, pour conclure.
Non, ce qu'il faut dire, c'est que le Maroc devrait tirer les leçons de ces 5 échecs consécutifs. Même si elle a mis 15 ans avant de se représenter après l'échec de 98, elle n'a pas tiré toutes les leçons. Et je pense que cette leçon-là, elle doit la tirer en faisant que sa candidature ne soit pas africaine simplement parce que le Maroc est un pays africain, mais parce que c'est porté par l'Afrique.
Alors, vous connaissez ma passion pour les pronostics, hein, dès qu'il s'agit de présidentiel, dès qu'il s'agit de football. J'ai hâte de savoir, d'avoir votre pronostic à vous, Marianne, qui sera champion du monde 2018 de football.
J'espère au moins que la France pourra avancer, peut-être pas jusqu'au bout, mais enfin sera quand même bien classée. Voilà, c'est mon humble.
Moi, j'aimerais bien qu'une équipe africaine sorte des poules et fasse un parcours. Et j'ai une petite pensée émue pour mes amis ghanéens qui avaient fait un parcours remarquable en 2010, je crois. Et puis je pense, mais là je crois que tout le monde va rigoler, je pense que c'est l'année du Brésil. Je ne sais pas pourquoi.
L'année du Brésil. On le verra rapidement, Louis, votre pronostic à vous.
Je soutiens les équipes africaines, je pense que la France en fait partie. Donc
oui, 13,
on espère que la France arrivera au bout de la compétition et qu'on aura une réédition de 98 avec France-Brésil.
Jolie conclusion et réponse donc.